two, three, four.
Salut à tous, bienvenue pour l'épisode numéro 31 du podcast de Rendez-vous Création. On va parler aujourd'hui de concerts, de spectacles musicaux. Et pour ça, je suis aujourd'hui avec Travis Burki. Salut Travis.
Bonjour Nicolas.
Travis, t'es auteur, t'es compositeur, t'es interprète, t'es musicien, t'es poète. Est-ce que j'en ai oublié ?
Pour ce qui est des titres principaux, non, je crois que ça peut aller. C'est vrai que quand on est chanteur de chansons et qu'on écrit des textes, et qu'on compose la musique, ça fait beaucoup de métiers comme ça rassemblés dans une seule activité, mais bon, c'est comme ça. Je pense que les gens se sont habitués aux auteurs, compositeurs, interprètes. Et moi, en général, quand je me présente, je dis que je suis chanteur.
Et on va parler tout à l'heure, peut-être en touche finale, de ton élégant rassemblement poétique.
Ah, volontiers. Mon parti poétique.
Un nouveau métier qui s'offre à toi.
Ça par contre je sais pas si c'est un métier, peut-être que c'est une vocation, mais j'avais envie après les élections, je m'étais, sans m'engager véritablement, je m'étais quand même assez intéressé et donc au lendemain de toutes ces élections, comme j'étais au cœur d'un ouvrage, j'avais commencé depuis quelques mois à écrire un livre, plutôt une pièce de théâtre qui se transforme peu à peu en livre, à un moment donné, l'un des chapitres a créé l'élégant rassemblement poétique. Alors plutôt que de le laisser en tant qu'histoire avec des personnages de fiction, j'ai voulu me le réapproprier et j'en ai fait une page MySpace. Donc vous pouvez trouver l'élégant rassemblement poétique sur Internet. Et j'ai commencé à écrire un manifeste sur certaines mesures poétiques que je prendrais si je suis au pouvoir poétique. Et mon slogan pour l'instant, c'est pour une France qui rime avec élégance.
Et tu as aussi, toi, une page MySpace indépendante.
Oui, sous mon nom, Travis Burki.
Sous ton nom. Et il y a aussi pas mal de sites, travisburki.free.fr, travisburki.com, etc.
Oui, il y a beaucoup trop de sites. Mais c'est vrai que depuis MySpace, comment faire un bon site avec autant de facilité? C'est vrai que sur une page MySpace, on peut mettre la musique, on peut mettre un peu de biographie, les rendez-vous pour les concerts, tout le monde peut y venir facilement. Et avant d'avoir cette page, j'ai eu la chance d'avoir un bon site, travisburki.com, fait par Gaël Hugo, un très bon graphiste de Suisse. Malheureusement, j'ai pas pu mettre au-delà de 3 ans ce site très à jour. Donc aujourd'hui, on peut passer par ce site par exemple pour m'acheter des disques. Mais pour tout ce qui est actualité de concerts et morceaux à écouter, chansons à écouter, il vaut mieux aller sur MySpace. Et c'est à peu près la même chose pour le site travisburki.free.fr où là, vous pouvez trouver d'assez nombreux textes. Mais j'avais un blog que j'ai tenu pendant toute ma tournée de l'album précédent, La Luge, jusqu'en 2005. Un blog dans lequel je racontais notamment mes dates de concert. Et je me suis pour l'instant arrêté de le tenir et je reprendrai peut-être pour la prochaine tournée qui commence à l'automne 2007.
Tu chantes des chansons en français ?
Oui.
Donc c'est de la chanson française ?
Oui, c'est de la chanson française. Habituellement, on entend, hein, quand on dit chanson française, peut-être plus variété française avec un style plutôt commercial. Mais même si c'est pas vraiment dans ce seul style que je me suis cantonné, j'ai plutôt exploité dans un premier temps une chanson assez poétique. Par la suite, j'ai fait du théâtre, puis du jazz, puis j'ai exploré pas mal de styles à la fois artistiques et musicaux. Et aujourd'hui, je crois que j'ai su, en tout cas pour l'album qui va bientôt sortir, me créer un style qui résume assez bien ce par quoi je suis passé ces dernières années. Et ça reste de la chanson parce que la plupart de mes œuvres sont sonores avec des paroles et de la musique, mesure à peu près 3 à 4 minutes. Donc c'est beaucoup d'éléments qui sont le fondement même de la chanson française. Donc voilà, c'est ce que je fais. Il m'arrive de chanter en anglais, mais c'est assez rare. Et il m'arrive de dire des poèmes aussi qui ne sont pas des chansons, mais Allez, on va dire que oui, je chante en français, donc je suis chanteur de chansons françaises.
Et pour que les auditeurs se rendent bien compte, on va mettre un fond sonore plus à la fin de l'interview, un morceau en entier enregistré lors d'un de tes concerts.
Volontiers.
Et donc jusqu'alors, tu as enregistré 3 disques. Là, tu parles du prochain, donc ça sera le 4e.
Oui, en fait, ce sera le 3e officiel. J'en ai enregistré 2 qui ont été publiés. Le premier s'appelait Après les Dancing et il est sorti en 2002. Le second, La Luge, en 2004. Et le troisième, Ce Garçon, devrait sortir à l'automne 2007.
Et comme tu le disais, tu as écrit des pièces de théâtre. Tu as participé à différentes activités poétiques. Et notamment le Grand Médzé.
Ah oui, j'ai participé au Grand Médzé en 2003 avec François Rollin et Édouard Baird. Il faut dire que j'avais rencontré Édouard Baird sur Radio Nova. J'avais été invité en tant que poète slammeur. À l'époque, je participais à des scènes ouvertes de slam. Et j'avais été invité pour dire des poèmes à certaines émissions. Et j'avais pu intégrer l'équipe d'Édouard et François lorsque tous les deux ont créé le Grand Médzé au Théâtre du Rond-Point fin 2003. Donc là, j'ai participé à beaucoup de spectacles, soit en chantant des chansons, parce qu'entre-temps, j'avais su leur dire que j'écrivais aussi des chansons, même si, au fond, moi, je savais que c'était surtout ça que je faisais, surtout ça que je savais faire. Donc, je disais des poèmes, des espèces de sketchs où je jouais parfois plusieurs personnages tout seul. Et peu à peu, le plus souvent possible, je chantais mes chansons avec une guitare ou un piano. Et c'est vrai que j'ai écrit une pièce par défaut, parce que j'avais pas l'intention d'écrire une pièce de théâtre, mais par contre, je voulais absolument, quand j'ai découvert Samuel Beckett, ça devait être fin 99, je voulais absolument monter une pièce. Je participais à une école de théâtre et j'avais pas réussi à avoir les droits de Samuel Beckett, alors que je voulais jouer ça au théâtre de l'Arbre en Seine, dans une petite salle près des buts de Chaumont. J'avais les comédiens, la salle, bref, bon, c'était pas à vocation de saccager l'œuvre de Beckett, ni d'avoir la prétention d'en faire un grand succès. Je débutais en mise en scène, mais les éditions de Minuit n'ont pas souhaité offrir les droits pour quelques représentations. Alors, j'ai joué cette pièce 2 fois chez moi. Et par la suite, je me suis dit, je vais écrire une pièce comme ça, je pourrais la jouer où bon me semble. Et donc j'ai écrit 4 quarts, qui était une pièce pour 4 personnages, et qu'on a joué avec une troupe que j'ai montée à cette époque-là, dans beaucoup de bars, dans beaucoup d'endroits à Paris. Et j'ai gardé quelques extraits de cette pièce, probablement les meilleurs moments à mon sens, que j'ai intégrés à mes concerts. Et il m'arrive encore aujourd'hui parfois d'avoir des poèmes qui sont extraits de cette pièce. Et plus récemment, j'ai écrit une nouvelle pièce qui est, comme je le disais tout à l'heure, est en train de se transformer plutôt en livre, peut-être en livre de poésie, mais j'espère terminer ça pendant l'été 2007.
Et notamment par le théâtre, tu as un fort penchant pour la mise en scène. Du coup, c'est pour ça que finalement tes concerts, c'est plus des spectacles que de simples chansons qu'on vient écouter.
Oui, je crois que là aussi, ça a été par défaut. Si j'avais su faire des tours de chant en me contentant de chanter et jouer d'un instrument de musique et de me sentir bien tout de suite, j'aurais fait ça. Mais quand j'ai démarré, quand j'ai donné mes premiers concerts, bon, d'abord, les premières années, j'ai eu des différents groupes de musique et j'ai donné mes premiers concerts en tant que musicien, instrumentiste et non pas chanteur. J'étais pas vraiment pressé de chanter devant des gens, public. Et peu à peu, comme j'écrivais les textes et j'ai eu ce besoin sans doute de chanter, je me suis essayé à ça et ça s'est pas très bien passé au début. J'étais sans doute un peu trop stressé et surtout j'arrivais pas à bien me faire comprendre. Alors, plutôt que d'arrêter, de laisser tomber et de me dire que j'aurais peut-être mieux à faire que de chanter en public, j'ai essayé d'adapter ma façon de chanter, ma façon d'aborder la scène, qui était au départ comme une espèce de conquête vers laquelle j'allais. J'ai essayé de transformer ça en vrai spectacle. Et par là même, j'ai emprunté tout ce que j'ai appris dans le théâtre ou dans la poésie ou dans la chanson. Et aujourd'hui, même depuis quelques années, je pratique une forme de spectacle vivant dont l'organe principal est la chanson, mais dans lequel on sent on sent une influence théâtrale, une influence poétique et surtout un goût peut-être pour la dérision. Bon là, peut-être que je m'aventure un peu trop dans l'auto-analyse, mais ça fait longtemps aussi que j'entends ce que les journalistes peuvent dire et j'essaie de répondre le plus clairement possible quand on me demande qu'est-ce que je fais, qui je suis sur scène. Il y a un goût pour la dérision et surtout pour l'humour, quoi. Ça, c'est mon. Je pouvais vraiment revendiquer beaucoup, quelque chose, c'est ça. Mais le problème, c'est que si je m'amène sur scène en disant ça va être très drôle, pour moi, c'est le plus grand défi qui soit et je suis pas du tout sûr d'être à la hauteur après de relever ce défi. Donc, je préfère arriver en disant que je vais chanter des chansons. Ça, c'est sûr que dans la plupart des cas, j'arrive plus ou moins à le faire. Et avec un peu de chance, c'est. Ça peut être assez drôle.
Ouais, en effet, le public rigole pas mal quand même. Hein.
Le public rit, oui. Moi aussi.
Mais du coup, est-ce que t'es pas un peu frustré au moment de faire un album, au moment d'enregistrer ? Il y a plus cette mise en scène.
Il y a plus cette mise en scène, mais il y a un truc génial dans le fait d'enregistrer un album, c'est l'enregistrement. Par exemple, pour l'album Ce garçon, on est parti avec Yann Arnaud, le réalisateur, puis les musiciens de mon groupe, plus des musiciens qui ont été invités pour l'occasion. Et on a passé plusieurs semaines à Toulouse, au studio Polygone. Et pendant des séances qui allaient de 10h du matin jusqu'à 10-11h du soir, on a beaucoup rigolé aussi, on a passé vraiment du bon temps. Parfois, des moments où il y avait beaucoup de concentration. C'était toujours sérieux, mais toujours assez détendu et parfois très drôle. Donc, je pense que l'enregistrement peut être aussi un très bon moment. Un peu comme le live qui engendre une certaine dose de stress, peut-être à cause du fait qu'on a peur de décevoir les gens. Bon, on s'est posé cette question avec mon ami François Rollin, qui partage cette idée du trac avant de monter sur scène, comme sans doute énormément d'artistes. Et il me disait, oui, au fond, la peur de monter sur scène, pourquoi le trac ? Et la seule réponse, ça pourrait être, le seul risque qu'on encourt à monter sur scène, c'est de décevoir quelques centaines de personnes. Alors au fond, c'est vrai que décevoir quelques centaines de personnes, ça peut paraître pas très grave. Mais en fait, pour un artiste, c'est la défaite suprême. Ça n'arrive peut-être jamais, parce que même quand on donne un concert un peu raté, il est raté pour soi-même, mais il n'est pas toujours raté pour la totalité de la salle. Et même quelquefois, il y a des gens qui sont très heureux d'avoir vu un concert qui pour l'artiste n'était pas le meilleur, voire était raté, mais bon. Donc finalement, la crainte suprême qui pourrait expliquer le trac, elle n'existe jamais. Et quand bien même elle pourrait exister, par exemple, moi je me souviens de mes premiers concerts où j'avais vraiment l'impression que le public était consterné. Et c'était pas évidemment des concerts où j'étais en tête d'affiche, où on peut pas comme ça, on peut pas débuter sa carrière en remplissant des grandes salles. Donc j'étais invité première partie, oui, ou alors simplement invité par un groupe qui donne un concert. Ah oui, on va inviter Travis, tu vois, il a des super chansons, tout à coup. Alors en général, les gens annoncent de façon assez maladroite. Et maintenant, on va écouter un chanteur, etc. Et là, les gens qui passaient un bon moment avant que j'arrive. Ils étaient, en tout cas, quand je voyais leur visage, moi je devais être tétanisés de peur. Alors c'est vrai que le chanteur, l'artiste qui est sur scène, en général, il communique de façon très rapide son état d'esprit aux gens. Donc s'il est flippé et mal à l'aise, les gens deviennent assez rapidement mal à l'aise et inquiets. Donc à ce moment-là, je pouvais plus que m'en sortir avec un peu d'humour après que une fois que la chose était passée. Mais je pouvais toujours me dire, est-ce que j'ai déçu les gens? Et en fait, peut-être qu'ils avaient juste pas bien compris. Ils se demandaient, mais qui est cette personne qui est venue faire ces choses-là sur scène avec sa voix et peut-être son piano? Mais aujourd'hui, j'ai fait quand même un bon bout de chemin. Ça fait presque 15 ans que je donne des concerts. J'ai réussi à me départir de ce qui pouvait faire foirer les premiers concerts, notamment... une façon de renoncer à certaines chansons pendant leur interprétation. Il m'est arrivé d'arrêter une chanson en plein milieu en me disant « ça va pas, elle me plaît pas, là, j'arrive pas à la faire, donc on passe à une autre ». Alors, c'est ce qui pouvait participer à étonner vraiment les gens. Et peu à peu, j'ai cessé de faire ça, même si j'étais pas au meilleur de ma forme au moment de raconter quelque chose ou de chanter quelque chose. J'allais quand même au bout de la chanson et il n'y a rien de meilleur que ça, finalement, tenir le cap, même quand les éléments extérieurs sont pas ou n'ont pas l'air très favorables. On a toujours beaucoup de satisfaction, on est remercié en général pour ces preuves de rigueur.
Et quelque part, tu veux dire que l'enregistrement d'un album, ça a pour avantage qu'on n'a pas de track?
Si, il y a le track, bien sûr. Alors déjà, il y a le track quand le magnéto tourne, ou l'ordinateur, hein, mais quand la bande est en train de tourner, qu'il faut y aller, il y a le track. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de disques qui ont du succès ou pas, mais qui sont en partie ratés à cause d'une émotion qui n'a pas été très bien gérée par les artistes. Le studio, il a quand même cette particularité de fixer, à un moment donné, une œuvre. Alors qu'un concert... Le concert, c'est la même chose, mais on peut considérer que si on joue une dizaine de fois par mois son répertoire, bon, bah, on a fait un concert, on fera mieux la prochaine fois, et puis on a fait un concert très bien, bon, on espère qu'on va continuer la prochaine fois. Mais un disque, ça dure pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans, et même si on a la possibilité de refaire. D'ailleurs, je crois qu'avec cette façon d'enregistrer en passant par des ordinateurs, on a maintenant plus la possibilité de refaire les choses, ce qui n'est pas forcément que positif, parce que quand on a toute liberté, sans limite, sans contrainte, l'enjeu même de la création artistique est remis en question. Quand on a la possibilité de refaire un peu plus que d'habitude le nombre de voix, on peut aussi se dire « bon, bah alors là, j'ai chanté aujourd'hui, je suis pas en grande forme, je reviendrai chanter demain ». Compte tenu du fait que les studios sont un peu moins chers maintenant qu'il y a quelques dizaines d'années. Mais on est quand même allé dans un studio assez bien équipé et qui nous a comme ça donné une petite émotion. Il fallait quand même faire bien, on avait un nombre de jours limité. Et il y avait le track, mais il y a eu ce qui se passe dans les bons concerts que je donne parfois. Il y a eu le track avant, il y a eu le track un peu au début, et puis le truc s'est mis en marche. Et après, voilà, on avait ce projet, on avait une énergie, un rythme qu'on a tenu jusqu'à la fin, jusqu'au mixage. Et quand on est revenu avec ce disque, ça fait un an qu'il a été enregistré et moins d'un an mixé. On a réussi à convaincre des éditeurs et là bientôt un distributeur pour le publier.
Il va sortir chez quel label ?
Il va sortir chez l'autre distribution en distribution avec Universal en éditeur. Et il n'est pas impossible qu'il y ait une sortie chez un label un peu plus important dans un deuxième temps.
Alors on attaque les concerts, la préparation. Au départ, tu as un répertoire avec pas mal de chansons. Il y a aussi une équipe pour organiser tout ça. Donc il doit y avoir un manager, un producteur, une maison de disques, un label, un distributeur, un tourneur. J'en oublie.
Non, il y a les attachés de presse, les musiciens et l'artiste. A priori, en tournée, c'est le tourneur qui programme, qui arrive à vendre le spectacle. Le tourneur, donc, c'est le producteur du spectacle. Moi, mes tourneurs s'appellent Éclat d'art. Production, ils vendent un spectacle, par exemple à Paris, à l'archipel. Et à ce moment-là, on débarque et on fait les réglages, les balances de l'après-midi.
Comment ça se passe entre le tourneur et toi ? Est-ce qu'il y a un intermédiaire, par exemple ? Est-ce qu'il y a le manager entre les deux ? Est-ce que c'est en direct ?
Il pourrait y avoir, mais non. Nous, on travaille en direct. Voilà. Les tourneurs, je les vois à peu près une fois par mois. On s'envoie des mails et en général, quand on se voit ou quand ils m'écrivent, ils me donnent la liste des concerts. Par exemple, je les ai vus il n'y a pas très longtemps, là, pour l'automne, en septembre, octobre, novembre, décembre, jusqu'au mois de mars, il commence à y avoir des dates qui arrivent. Et c'est eux qui, si on part en Bretagne ou en Suisse ou dans le sud, c'est eux qui réservent les hôtels, les voyages, les transports. On part avec l'ingénieur du son, soit en véhicule et dans lequel on met toute notre régie et tous nos instruments de musique, soit quand c'est pas possible, pour telle ou telle raison, on part en train. À ce moment-là, on prend un peu moins de matériel et une partie du matériel est louée. Le backline est loué par la salle de spectacle qui nous accueille.
Oui, donc tu dis le backline, ça peut correspondre en particulier à la table de mixage.
Voilà, ça peut être la table de mixage et puis ça peut être aussi un piano électrique, le piano que j'utilise. Ça peut être les amplis, l'ampli de la basse. Voilà, tout dépend après le groupe, puisque moi j'ai une particularité, c'est que je peux jouer en solo, en duo ou en groupe avec 4 ou 5 musiciens. Quand je joue à Paris, j'invite souvent des comédiens ou des danseurs.
Comment est-ce que tu fais pour choisir justement qui va venir, qui va pas venir, quel musicien ? Donc est-ce que ça va être une formation resserrée, plutôt acoustique, ou est-ce qu'il va y avoir beaucoup de musiciens autour de toi ? Comment tu fais pour choisir ?
C'est déterminé une fois pour toutes en début de tournée. Par exemple, si l'objectif c'est de vendre le spectacle avec 5 musiciens sur scène, à ce moment-là, la tournée va être à chaque fois avec ces 5 musiciens sur scène. Sachant que quand il y a un bon marketing autour d'un artiste, c'est assez facile pour lui de vendre un spectacle, même s'il y a beaucoup de monde sur scène. Si il faut encore faire ses preuves et apporter un disque qui n'est pas très connu, il vaut mieux ne pas être trop nombreux parce que les concerts seront parfois bien achetés, parfois achetés beaucoup moins cher. Et pour équilibrer les budgets, les tourneurs et à peu près toutes les institutions de la profession préféreront que l'artiste soit avec un ou deux musiciens sur scène maximum. Donc là, pour la tournée prochaine, il y a un duo avec Flers à la basse qui est annoncé. Donc il y aura sans doute pas mal de dates en duo, quelques-unes en solo. Et dans un second temps, début 2008, on verra comment la tournée se précise et selon l'accueil de l'album surtout. Si l'accueil est bon, peut-être qu'on essaiera de travailler avec un trio en additionnant au duo Flers et moi. Peut-être un batteur ou un guitariste, on verra.
Est-ce que la maison de disques intervient à un moment donné ?
Alors c'est assez nouveau parce que auparavant, on va dire jusqu'à présent, la maison de disques n'intervenait pas ou peu, à part pour financer une partie des dépenses, sachant que pour elle, plus l'artiste donne de concerts, plus il vend de disques, mieux c'est pour la maison de disques. Mais aujourd'hui, avec la crise du disque et le changement, la mutation de la façon de vendre de la musique, on s'aperçoit que le public est prêt à venir payer sa place et aller au concert, mais de moins en moins à acheter le disque. Il y a encore des acheteurs de disques, mais Internet permet d'avoir beaucoup d'albums gratuitement sur certains sites de peer-to-peer ou encore d'autres sites de téléchargement. Donc la maison de disques aujourd'hui, qui est censée apporter l'investissement de départ puisqu'elle produit un album qui va servir à créer et à promouvoir une tournée de concert, elle a tendance à demander aujourd'hui aux producteurs de spectacles d'avoir une coproduction, donc étant donné que elle s'est investie en début de tournée, la maison 10 va être beaucoup plus présente qu'auparavant et essayer de récupérer un certain pourcentage sur les concerts vendus.
Donc une coproduction entre la maison de disques et
le
tourneur.
Producteur de spectacle. D'accord. Et le tourneur, exactement.
Et le distributeur ?
Le distributeur, en théorie, il n'a pas de pourcentage à prendre dans les concerts. Il est, il travaille en étroite collaboration avec les tourneurs parce qu'il a besoin de savoir dans quelle ville l'artiste va jouer pour pouvoir d'autant mieux mettre en place les disques dans les bacs des magasins et ne pas forcément favoriser des magasins dans une ville dans laquelle l'artiste n'est pas encore là. Puisque avec la crise du disque, il y a aussi une forme de crise de distribution et les gens allant de moins en moins dans les grandes surfaces ou même dans les boutiques de disques et préférant acheter sur Internet, les magasins eux-mêmes ne gardent pas longtemps les disques dans les bacs. Et quand il y a eu quelques mois sans que les disques soient vendus, ils ont tendance à les renvoyer. Donc c'est préférable pour le distributeur de savoir exactement où l'artiste joue pour pouvoir à ce moment-là mettre un peu plus dans les villes dans lesquelles l'artiste va jouer et pourquoi pas faire une promotion à ce moment-là. Sachant que en théorie, la promotion, c'est la maison de disques, c'est le producteur qui le fait. Mais aujourd'hui, le distributeur a un rôle important à jouer. C'est aussi dans son propre intérêt que les disques soient vendus. Donc, il peut arriver que le distributeur s'investisse aussi dans la promotion. Et encore aussi, parfois, dans le marketing.
Et comment le tourneur trouve les salles ?
Bon, c'est son métier de départ, donc on peut prétendre que le tourneur a son carnet d'adresses, ouais. Et il a des annuaires avec le nom des salles et des programmateurs.
Il arrive à considérer. Tout à l'heure, tu disais, il doit vendre le spectacle. comment il fait, en fonction de quoi, quels critères.
Ce serait intéressant que tu ailles interviewer mes tourneurs pour les voir faire. Moi, je les ai jamais vraiment vus à l'œuvre, mais je sais que ils commencent par envoyer un disque avec une biographie de l'artiste et après quelques temps ils téléphonent. La plupart du temps ils connaissent déjà le programmateur ou en tout cas le programmateur a entendu parler de ses tourneurs et peut-être de l'artiste, on peut l'espérer, et ils présentent le projet. Voilà, cet artiste là il sort son album ou son album vient de sortir ou alors son album est sorti il y a quelques mois, en tout cas il est encore dans la bonne actualité. Nous on vend le spectacle tant, mais bien sûr on peut toujours s'adapter. Il propose un trio, mais il peut aussi jouer en duo. Donc, ça, ce sont des détails qui peuvent être un autre avantage. C'est vrai que ça peut favoriser parfois de savoir qu'on peut s'adapter, y compris par rapport au nombre d'artistes sur scène.
Et quand tu fais une tournée, est-ce que les chansons qui sont jouées lors de chaque date sont les mêmes ou est-ce que ça évolue ?
Moi, j'ai la réputation de faire des concerts nouveaux un peu à chaque fois. C'est une façon de faire que j'ai beaucoup modifiée avec le temps. À l'époque où je jouais dans des cabarets parisiens, dans des bars, j'avais presque chaque soir vraiment un nouveau spectacle. Aujourd'hui, ceux qui apprécient mes concerts et viennent me voir savent qu'effectivement, à chaque fois, c'est un nouveau concert. Mais il y a une playlist qui est assez constante, qui tient compte des morceaux qui figurent sur mes derniers disques, des morceaux qui figurent sur le nouvel album. Et j'ajoute des chansons inédites, quelquefois des chansons anciennes, quelquefois plutôt récentes, des poèmes qui sont sur aucun disque. Mais il m'arrive encore de choisir de chanter une ou deux chansons que j'avais pas chantées la veille. Mais quand je me retrouve avec plusieurs concerts à donner chaque mois et surtout avec des musiciens qui jouent dans d'autres projets, qui n'ont pas forcément le temps d'apprendre toujours des nouveaux morceaux, j'essaie d'éviter quand même que le concert soit entièrement nouveau et pour moi et pour les musiciens. Mais il y a un autre paramètre qui est qu'au sein même de certaines chansons, il y a la possibilité d'improviser. Donc, moi j'ai besoin de ça quand même. J'ai besoin d'aller vers la nouveauté, qu'il y ait une certaine forme de nouveauté dans un cadre qui est une setlist avec certaines chansons qui reviennent à chaque fois. Et au milieu de tout ça, il y a vraiment la place pour improviser à la fois musicalement et à la fois textuellement. Et même, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important, dans l'ambiance, dans l'état d'esprit.
Ça veut dire que tu prends plaisir à improviser toute la mise en scène qu'il y a autour des chansons, et même pendant les chansons.
Bien sûr, oui. La mise en scène, elle est à chaque fois improvisée.
une fois sur place, évidemment, il y a toi, il y a les musiciens, et il y a le régisseur son, le régisseur lumière.
Pour l'instant, j'ai tourné qu'avec Arnaud Viala, régisseur son. Le régisseur lumière, j'espère pouvoir l'engager bientôt, mais tout va dépendre de notre... de la façon dont sera étoffée la tournée de concert. Si l'album est bien accueilli et si les dates arrivent, on pourra penser à ça. Pour l'instant, on fait confiance en général au régisseur sur place. Et j'ai fait suffisamment souvent des résidences dans des lieux pour avoir une petite idée de l'ensoleillement du plateau. Et l'important, c'est que les places soient bien définies par la lumière. Surtout quand on est en duo, parce que j'ai une place piano-voix qui est normalement au milieu de la scène, et une place guitare qui est côté jardin. Alors, on a étudié ça avec différents coachs, d'ailleurs, qui pourraient être appelés metteurs en scène aussi, mais notamment Philippe Albaret, du coach, avec qui j'ai travaillé plusieurs fois. Les dernières fois, c'était aux cuisines de Shell, dans cette belle salle des cuisines. Et la veille ou le jour même de mon concert, on avait bien mis en place la lumière autour de ces deux endroits dans lesquels j'allais sur scène, pour que le public ne soit pas étonné de me voir quitter le milieu de la scène dans lequel on trouve habituellement le chanteur pour aller me mettre côté jardin. Donc on avait trouvé certaines petites lumières qui légitimaient cette place.
Du côté son, donc en général, c'est Arnaud Viala. Arnaud Viala ou bien le régisseur de la salle.
En tournée, c'est toujours Arnaud Viala.
Toujours Arnaud Viala.
Voilà, sauf quand on joue dans des petits endroits à Paris où on connaît bien la régie. Mais habituellement, en tout cas depuis à peu près un an et demi de la tournée précédente, c'était Arnaud Viala.
Donc il intervient pendant la balance et puis pendant le concert. Du coup, on peut dire deux mots sur la balance. Qu'est-ce qui s'y passe en gros ?
Alors la balance, ça commence par un moment où...
Déjà, c'est avant le concert.
Oui, c'est quand on arrive, on pose nos instruments sur le plateau et Arnaud, notre sonorisateur, avec le régisseur du lieu qui nous accueille, commence à disposer les câbles, si c'est pas déjà fait. Alors le premier moment de la balance, c'est lorsque notre sonorisateur fait l'équilibre du son par rapport à la salle. Il passe toujours un de ses propres disques, un disque qu'il a acheté dans le commerce et qu'il aime bien et qu'il connaît bien, et il diffuse ce disque à fort volume dans cette salle et il règle ses equaliseurs pour retrouver le son qui lui semble être le son idéal ou se rapprocher du son idéal.
Il prend l'empreinte de la salle.
En quelque sorte, il prend l'empreinte de la salle et il essaie d'adapter les éventuels défauts de cette salle et ses qualités pour faire que il va retrouver, quand il ouvrira une tranche, il va retrouver un son qui lui semble le son de base pour pouvoir après mettre plus ou moins d'aigu sur un instrument, ou plus fort ou moins fort un autre instrument. Mais en tout cas, voilà, pour connaître la salle, il commence par écouter et on écoute toujours le même morceau.
Une tranche, c'est une voix sur la table de mixage.
Voilà, ouais, une voix sur la table de mixage. Un bouton qu'on avance vers le haut, vers le bas, pour faire plus fort, moins fort. C'est tout ce qui est au-dessus de ce bouton s'appelle une tranche sur la console. Après, une fois que les balances sont faites, on peut venir brancher nos instruments. Et avec des sonorisateurs comme Arnaud, on fait attention de bien jouer les uns après les autres. Parce qu'il y a cette tentation quand on a fait parfois 4 heures de train.
De jouer tous, que, tout
oui,
de suite.
Oui, on branche nos instruments, on a tout de suite envie déjà de faire une petite répétition. C'est toute la folie un peu de la musique. Ouais. Voilà. Surtout d'être en groupe. Quand on est en duo, il y a déjà une ambiance beaucoup plus calme. Bon, on peut avoir très envie de jouer, mais on arrive à une discipline assez... On a eu du mal par moment. Il a fallu quelques mises au point, parce que forcément, pour gagner du temps, parce que quelquefois, on fait aussi la première partie d'un autre musicien, ou il y a une première partie, donc il y a toujours un timing qui joue dans ces moments-là. C'est la partie technique, Il faut aller le plus vite possible et faire les choses le mieux possible. Et pendant qu'on va régler le son de la basse, par exemple, le guitariste branche son ampli. Et il va être obligé de jouer un petit peu ou il va être amené à jouer un peu. Donc ça peut perturber le son qu'on est en train de faire. Donc, alors on peut dire que on passe à la balance à ce moment-là, musicien par musicien, en commençant quand il y a un batteur par le batteur, puisqu'il y a beaucoup d'éléments à sonoriser, et en général on termine par le chanteur, une fois que tous les autres instruments sont faits.
Et qu'est-ce qu'on fait comme réglage à chaque fois ?
Il y a un réglage de son pour la salle, pour que le public entende bien le mieux possible chaque instrument, et un réglage pour le plateau, pour que chaque musicien, dont son retour étant une enceinte de laquelle sort le son mixé du groupe, entendent bien à la fois le groupe et à la fois son instrument ou sa voix, s'il chante.
Donc le retour du chanteur ne va pas être le même que le retour du bassiste, par exemple?
Non. En général, le bassiste va mettre sa basse un petit peu plus fort et il ne voudra pas forcément entendre tout ce qui se passe sur scène pour la précision de son jeu. Il voudra entendre la voix pour savoir où est-ce qu'il en est dans le morceau, si jamais il a oublié. Mais il voudra peut-être entendre assez fort le batteur pour être bien en rythme avec le batteur.
Et si tout le monde joue en même temps, forcément, ça pose des problèmes d'organisation à Arnaud Viala. Est-ce que dans cette phase de préparation avant le concert, il y a d'autres problèmes qui peuvent se produire, notamment en termes d'organisation ?
Bon, il faut dire qu'il y a toujours... Dans 50% des cas, il y a un petit problème. Il manque quelque chose ou quelque chose ne marche plus. Et souvent, c'est des choses qui ne nous concernent pas directement. Mais,
des pannes techniques ?
Oui, des impondérables, on va dire. Et avec différents degrés de gravité. Bon, alors ça demande parfois, pour être réglé, à ce que quelqu'un parte dans un magasin de location chercher un autre appareil, ou alors parfois on peut le remplacer par un autre. Bon, il faut se souvenir que quand on arrive pour donner un concert, le régisseur est censé notre régisseur personnel. Arnaud Viala a joué ce rôle-là. Parfois ça peut être un vrai régisseur. Doit jouer ce rôle d'intermédiaire entre les gens qui nous accueillent et le groupe, donc nous dire par exemple bonjour, entrez, voilà, là vous avez vos loges, est-ce que vous avez besoin de telle ou telle chose, après on vous montrera où est votre hôtel, ou alors vous voulez y aller tout de suite, ou le repas sera servi à telle heure. Bon. Évidemment, plus les salles sont grandes et les concerts mieux organisés, plus il y a de monde, plus il y a de nombreuses personnes pour nous accueillir, et plus... Il devient indispensable d'avoir aussi une bonne équipe avec soi. On peut se passer d'un régisseur, le sonorisateur peut faire ce boulot-là quand on est en duo et qu'on est assez peu nombreux sur la route, mais quand on commence à être une vraie équipe, la présence d'un régisseur est très importante.
Tout à l'heure, on a parlé de la mise en scène du spectacle. Par contre, on n'a pas parlé de la communication avec le public, parce qu'il n'est pas rare que tu interpelles le public, tu lui parles directement. Donc tu nous disais tout à l'heure que c'était improvisé. Est-ce que tu as quand même une partie qui est planifiée ? Est-ce que y a des choses qui reviennent ? Est-ce que tu as une méthode particulière ?
Oui, il devrait y avoir des sketchs vraiment écrits. Peut-être que ce sera le cas, et c'est peut-être déjà le cas de façon plus ou moins formelle. Par exemple, il y a une chanson qui s'appelle « Deux points tirés, fermer la parenthèse », où il est question de chanter une chanson interactive, de faire participer le public. À ce moment-là, il y a des parties qui sont à reprendre en chœur par le public, et j'ai fixé peu à peu des phrases que j'avais improvisées un soir pour présenter cette chanson qui, comme d'autres chansons, n'a pas grand intérêt si elle est faite de façon très rigoureuse et sérieuse. Elle gagne en richesse et en interactivité, si justement elle a un côté un peu dérisoire, comme si je disais au public que j'essaie vraiment de faire quelque chose de bien et que j'ai besoin de leur participation, et que même avec leur participation à l'arrêt, de toute manière, ça peut quand même foirer. Et ça fait partie d'une énergie qui crée l'humour, qui donne plaisir aux gens de participer, et moi qui me donne aussi plaisir pour continuer à leur proposer de participer.
Et donc, on a parlé d'autodérision tout à l'heure, mais on n'a pas parlé de ton personnage, parce que quand tu viens sur scène, on sent tout de suite qu'il y a un personnage.
Ça, c'est encore c'est plus ou moins inconscient, parce que dès que je me mets en tenue de scène, si je mets un smoking, avec mes lunettes de soleil, et que j'arrive sur scène, bon, bah oui, il y a mon personnage. Je me souviens, avant, je me mettais une chaussette sur le pantalon de la jambe gauche pour encore plus spécifier mon personnage U. Maintenant, j'ai un peu moins besoin de cette chaussette. Le personnage, il est obligatoire pour monter sur scène, parce que ça va durer 1h30, 2h, il va y avoir des chansons et on les raconte. Donc là, on laisse, il faut laisser toute notre vie privée, quotidienne. Il faut oublier tout ça. On a vraiment un moment donné qui est assez court, et à la fois être soi-même, mais soi-même, c'est là que être le personnage de soi-même, parce que je pense que tout le monde est un personnage, même plusieurs, tout le monde est une infinité de personnages. Finalement, les gens qui savent très bien jouer la comédie, qui savent très bien être acteurs, et je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est pas tous les gens qu'on voit au cinéma ou au théâtre, il y en a quelques-uns qui sont vraiment très forts, et souvent ce sont ceux qui ont réduit à un seul personnage qui peuvent être. Dans la vie de tous les jours, des gens qui ne sont pas du tout acteurs, ils sont toujours en train de fabriquer, de jouer. Et donc, le personnage que tu vois chez moi quand j'entre sur scène, j'essaie de façon plus ou moins consciente de le simplifier, voilà, de privilégier le personnage qui me semble le plus à même d'incarner une, à la fois une crédibilité nécessaire pour chanter ses chansons. Et c'est aussi un personnage un petit peu sportif. Moi, je suis pas un grand sportif, mais j'ai fait du sport quand j'étais jeune pour chanter, pour jouer du piano, pour un petit peu bondir, pour danser sur scène aussi. Toute proportion gardée, hein, je prétends pas être un danseur, mais il faut faire du sport quand même, quoi. Il faut aborder ça de façon un peu sportive.
C'est physique.
Voilà, donc ce personnage, il a ça aussi, je pense.
D'ailleurs, on n'a pas précisé ton nom de scène, c'est U, la lettre U avec un tréma dessus, comme dans ton nom, Burki.
Oui, c'est plus vraiment mon nom de scène, mais c'est mon sigle. Voilà. C'est le nom. C'est, au tout début, il y a de nombreuses années, c'était le nom d'un personnage de bande dessinée que j'avais créé et que j'ai utilisé pour mes deux albums précédents. Et donc là, je souhaite l'utiliser avec un peu moins de fréquence. Voilà. Pour ceux qui savent, très bien, quelquefois, je dis un long poème avec des rimes en U, qui est un petit peu un hommage sur cette rime et sur ce son. Et c'est vrai que U tréma, c'est la deuxième lettre de mon nom de famille. Et je continuerai de l'utiliser, mais sans forcément considérer que c'est mon nom, c'est mon unique nom de scène.
Donc ton album sortira sous le nom de Travis Burki.
A priori, oui.
Ouais. Tout à l'heure, on a parlé du trac. Hein. Le trac, ça peut venir, par exemple, de la peur d'oublier. Et c'est notamment pour ça qu'en général, en concert, on a la liste des morceaux qu'on écrit en gros et qu'on met par terre, hein, et qu'on distribue aux musiciens. Et cette liste, tu l'as fait à chaque fois. Et si elle change de concert en concert, comment tu fais par rapport à ça ?
Bah justement, si elle change de concert en concert, j'utilise une liste. Si elle ne changeait plus, j'en utiliserai plus, mais... Ça crée
donc tu réécris la liste à chaque concert, hein.
Oui, d'accord. Assez fréquemment, ouais. Mais ça crée beaucoup de plaisanteries en tournée, pendant la tournée précédente avec tout mon groupe, parce que c'était quelques mois avant d'enregistrer mon album. Donc j'ajoutais dans la liste du concert des morceaux qui allaient figurer sur mon album, qui allaient être enregistrés, et je voulais les essayer en live avec les musiciens pour... Je voulais les éprouver, même si on les connaissait pas forcément toujours bien. Mais les musiciens qui, pour certains d'entre eux, venaient du jazz ou aimaient bien mon côté improvisateur, ça leur déplaisait pas, tant qu'ils mettaient une grille un peu sous leurs yeux. Du coup, ils se marraient à chaque fois parce que je leur donnais en début de concert une liste de façon un peu solennelle. Voilà, c'est ce que nous allons jouer ce soir. Mmh. Et tout de suite, ils riaient parce qu'ils me disaient « c'est sûrement pas ce qu'on va jouer ce soir » parce que ça change à chaque fois. La liste était plus ou moins ressemblée aux autres, mais c'est vrai que il y avait toujours des nouveaux morceaux. Mais ça, c'était bien parce que j'allais entrer en studio peu de temps avant. Là, pour un début de tournée, il n'est pas question pour l'instant de retourner en studio, mais au contraire, pour publier cet album, il n'est pas impossible qu'au bout d'un moment, cette liste que tu as pu voir sur le plateau disparaisse, parce qu'on saura très bien qu'après telle chanson, il y en a une autre, etc. Mmh. Ce qui ne veut pas dire que ce sera la fin de l'improvisation. Mais c'est surtout pour les musiciens. Et à la vraie dire, ce n'est pas parce qu'il y a une liste par terre que je vais avoir moins le trac. peut-être que ça sécurise encore davantage, mais la peur des trous de mémoire, l'idéal c'est d'avoir un prompteur ou ses textes sous les yeux, mais en fait, je peux avoir peur d'oublier mes textes avant d'entrer sur scène. Mais je me rends compte que quand je les oublie, ça peut être très amusant aussi. Ça va pas forcément gâcher le concert parce que j'ai oublié mes textes. Et d'ailleurs, un des meilleurs concerts que j'ai donné en 2005 à Montauban, c'est un concert où à peu près la moitié ou les trois quarts des chansons, j'ai oublié mes textes. Et à chaque fois, j'ai inventé un nouveau texte. Mmh. Et je dirais pas que j'ai fait grimper le niveau littéraire des textes, mais en tout cas, d'un point de vue scénique, d'un point de vue interactif, c'était le meilleur concert de l'année.
Alors comment ça se passait à ce moment-là? Tu continuais les chansons ou tu t'arrêtais, tu reprenais?
Non, je les continuais, mais tout en disant parfois que j'étais en train d'oublier les textes, mais je le disais en faisant des rimes et en racontant une nouvelle histoire. Les musiciens qui connaissaient bien mes chansons riaient beaucoup et le public aussi. Le public est quand même assez, et il a raison je pense, assez sensible au rapport qu'il peut y avoir entre les musiciens sur scène.
Vous en jouez beaucoup? Parce que le bassiste avec qui tu joues, Flers, a aussi un personnage.
Oui, absolument. Lui, il fait des concerts sous son nom. Il a tout un personnage de chanteur, musicien.
Il est censé ne pas savoir parler français pendant les concerts, ce qui crée des dialogues en anglais.
Oui, mais c'est pour la raison qu'il est. Il donne des concerts et qu'il chante en anglais et qu'il a l'élégance, quand il s'adresse au public, de continuer de parler anglais. Mmh. Il a vécu en Angleterre, et il sait tout à fait le faire. Donc, contrairement à des groupes qui chantent en anglais, mais qui sont français, alors qu'ils vont faire des commentaires en français entre les chansons, je trouve qu'il a très bien compris le côté spectacle, justement, du concert. Alors que, comme il fait de la pop musique, il pourrait très bien se contenter d'aligner ses chansons de pop et de dire thank you ou merci entre les chansons. Lui, il pousse le spectacle aussi dans une attitude et dans ce concept qui consiste à parler anglais entre ses chansons. Donc, évidemment, c'est ce qu'on a mis en pratique dans mes propres concerts. Quand il est là, je fais l'effort d'essayer de lui parler en anglais, voire de lui traduire très maladroitement certains de mes gags trouvés comme ça à l'improvisade. Et ça donne une bonne ambiance.
Justement, cette bonne ambiance, elle peut éventuellement être ternie par des problèmes techniques. Ça arrive des fois en plein milieu d'un concert, un problème technique?
Oui, c'est arrivé. Ça, c'est pas forcément le problème technique qui va ternir d'ailleurs. Ça peut être aussi un écueil autour duquel on peut construire quelque chose de spectaculaire. Mais oui. En musique, c'est vrai que c'est toujours plus gênant quand tout à coup le micro marche plus. Bon, si la salle est grande, là on peut parler effectivement de concert terne. Si le problème technique est vraiment comme ça important, mais c'est assez rare ça. Disons que je peux me souvenir de différents problèmes techniques qui ont survenu. Tout à coup, il y a un bruit un peu fort qui sort des retours, un Larsen. Bon. Edouard Baird disait à propos du Larsen, c'est ce jeune Danois qui vient de sortir en courant là, des loges ou des coulisses.
Le concert, c'est l'occasion d'établir des contacts. Tu parlais tout à l'heure d'un concert promotionnel. Est-ce que ça débouche souvent sur des contacts intéressants?
Oui, il y a une famille qui m'a envoyé la crème de marron d'Ardèche. Et c'était des gens qui m'avaient vu en concert et qui avaient fait ma première partie à la Voulte. Parfois, ça non, peut être...
J'aurais dû préciser ma question parce que je voulais te parler évidemment du public après. Mais ma question, c'était sur les contacts professionnels. Voilà.
Bah, j'ai le très bon souvenir du concert que je viens de raconter à Montauban. Ce concert où j'avais oublié tous mes textes.
Ouais.
Qui pour moi a été le meilleur concert, mais je dirais un des meilleurs parce que c'était 2005, c'était vraiment l'année où on a donné beaucoup de concerts avec mon groupe pour l'album de la Luge et on a eu des très bons souvenirs pendant toute l'année. Et à ce concert à Montauban, il y avait la salle était presque remplie de professionnels, il y avait des gens qui venaient juste là pour voir différents groupes, pour les programmer. Donc grâce à ce concert, on a eu par la suite presque 70 dates en plus de concerts dans toute la France. Donc c'était vraiment génial. Et en Suisse et en Belgique aussi. Alors, quelquefois, les concerts sont très axés comme ça sur la présence de professionnels qui peuvent créer d'autres dates de concerts. D'autres fois, oui, on peut inviter des maisons de disques. Bon, alors, les maisons de disques, comme leur projet, c'est le disque. Quand elles voient un concert, même si le concert est bien, est-ce qu'elles ont besoin surtout d'un bon disque ? Alors, pour l'instant, c'est pas dans ce registre-là que j'ai excellé, hein, le disque. J'espère que l'album Ce Garçon que je vais publier aura un bon accueil. Je pense que c'est un très bon disque, mieux abouti que les précédents. Mais je peux pas prétendre non plus faire un carton d'emblée. Hein. Il y a beaucoup de disques qui sortent, il y a des gens qui font ça très bien. Moi, mon truc, c'est le concert, c'est le live. Et je sais que pour faire de bons lives, il faut faire de bons disques.
Et donc, tu reçois beaucoup de crème de marron ?
Non, pas beaucoup, mais de la bonne. J'en ai reçu l'an dernier. C'était de la part de gens que j'ai rencontrés en Ardèche après un concert.
Et à part les pots de crème de marron, tu dois avoir des commentaires peut-être sur ta page MySpace ?
Oui. Alors, j'ai eu récemment de bons commentaires sur les concerts que j'ai donnés à l'archipel. À l'époque où je tenais mon blog sur travisburki.free.fr, j'avais aussi quelques commentaires. Bon, à cette époque-là, j'avais plutôt tendance à raconter vraiment chaque date avec l'avant, après le voyage, le concert, etc. Bon, MySpace, c'est surtout des commentaires de la part d'autres musiciens, parce qu'il faut dire que tous les gens du public n'ont pas une page MySpace quand même. Mmh. Mais oui, ça marche comme ça. C'est vrai que j'ai des bons commentaires.
On va terminer par des petites pensées en direction de nos auditeurs. On n'a pas dit que tu avais fait une école de musique.
Oui, j'ai fait le centre d'information musicale à Paris.
Qu'est-ce que tu as appris dans cette école de musique qui te sert le plus aujourd'hui ?
Des accords majeurs, qu'utilisait beaucoup un pianiste qui s'appelle McCoy Tyner. Des accords, par exemple, do dièse, fa. Voilà, cette triade au milieu du clavier, on peut monter comme ça dans les aigus, en déplaçant avec ces deux intervalles et ces trois notes. Ça, c'est des accords que j'utilise dans l'invisible, dans un des titres du prochain album. Et une autre chose que j'ai appris dans cette école ou que j'ai amélioré, c'est un sens de la structure du morceau qui s'est rapproché un peu des études d'architecture que j'ai fait. Un lien entre partition, plan de la chanson et plan d'un immeuble, plan d'une habitation.
Et qu'est-ce que tu as appris ailleurs que dans cette école qui te sert le plus aujourd'hui ?
Tous les disques des Beatles que j'ai écoutés, les disques de Renaud, les disques de Gainsbourg, les concerts de ces gens-là ou d'autres, tout ce que j'écoute aujourd'hui, Dvorak, Bob Dylan, les Rolling Stones, Benabar, avec plus ou moins de passion et de constance, mais évidemment, hors l'école, il y a tout à apprendre. L'école a tendance à nous faire apprendre ce qu'elle veut bien nous faire apprendre. C'est un peu comme si, quand on arrive dans une école, on devait ne plus écouter beaucoup d'autres choses. On doit se fermer un petit peu et se concentrer sur une source d'information. Quand on sort de l'école, on n'a plus qu'à écouter tout le reste, c'est-à-dire presque l'infini.
Par rapport à tes premières chansons, qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans ta démarche de création ?
Premièrement, la langue, puisque j'ai commencé à écrire en anglais, j'ai écrit en français par la suite, j'écris toujours en français. Il doit y avoir ce mouvement de partir de quelque chose d'assez simple et spontané, et puis aller vers la complexification, vouloir explorer de nouveaux styles, et puis progressivement revenir à plus de simplicité, revenir à une chanson. C'est une boucle qui va se boucler. Je me souviens pas là de la première chanson que j'ai dû composer. Une des premières chansons.
Tu veux dire que tu es en train de revenir à la simplicité que tu avais en termes d'écriture au début.
Voilà. Simplement, j'y reviens avec plus d'années, une certaine expérience de ce que je n'ai pas envie de faire. Et puis de peut-être moins de questions, mais de nouvelles questions, ou mieux. Finalement. À la fin, toute fin, sans doute, il doit rester plus qu'une seule question ou plus qu'une poignée de questions, mais elles sont peut-être mieux formulées, voilà, où il y a moins de mots.
Alors on va finir par le conseil pour un débutant qui chante, qui a écrit, qui a composé ses chansons et qui voudrait commencer à faire des concerts.
Les conseillers sont pas les payeurs. Si c'est moi qui vais lui donner les moyens de faire tout ça, je vais commencer à lui dire bon alors surtout fais pas ça, fais ceci, tiens. Et alors je lui dirais écoute mes disques, écoute mes concerts, lis mes poèmes et puis peut-être que tu vas trouver toi-même un truc qui va t'intéresser.
Merci Travis.
Merci Nicolas, salut à tous.
Salut à tous.
Elle porte un chapeau, s'est assise au bord de l'eau, du lac Léman à la sortie de l'eau. Les années les amènent jusqu'à nous. Il ne sait pas d'où il vient, ni pourquoi il lui prend la main. Mais s'il fallait un signe du destin, dans les mots, dans les moments les plus doux. Elle s'est éteint les cheveux en cramoisi et écarlate, fasciné par ses yeux, il cherchait le geste qui flatte. Il emmène en lui disant la vie ce n'est qu'un instant, les promesses et les baisers c'est du vent. C'est du vent, elle le sait et lui répond. L'amour c'est pour les chansons, le romantisme est fini. 25 ans plus tard ensemble à Paris. Que reste-t-il des années, des minutes ensoleillées de neige aura recouvert avant que le printemps ait fait fondre l'hiver. Il faudra changer de décor, d'est en ouest et du sud au nord. C'est à croire que la vie nous du ressort et pourrait signer nos carnets de bord. Elle s'est éteint les cheveux en cramoisi et écarlate, ses yeux, il cherchait le geste qui flatte. Il emmène en lui disant la vie ce n'est qu'un instant, les promesses et les baisers c'est du vent, c'est du vent.